Midi Plus. Les sujets de l'heure. Voici. Robert Pilote au 106.9 Mauricie.
Alors, Gilles Boulay est avec nous autres deux fois cette semaine, aujourd'hui, lundi, à midi 13 minutes. Julie, officiellement, bonjour.
Bonjour, bon midi à tous les auditeurs, auditrices, oui.
Bon, alors, l'actualité, le monde, ce matin, j'ai même senti ce matin qu'il y avait plus de monde sur les routes, plus de circulation. Les activités de la société québécoise vont reprendre. J'ai comme toujours l'impression qu'à, tu sais, arrivé à la mi-décembre, tout le monde met ça sur le neutre. Tout le monde part en vacances, on ferme les écoles. Tout est fermé, l'Assemblée nationale va fermer, et puis là, on se donne un mois à peu près. Et là, ce mois-là est terminé, là, on est à la mi-janvier. Aujourd'hui, c'est à peu près la rentrée officielle, il y a plus de monde sur les routes. Et puis l'actualité sera généreuse avec nous autres, Julie, pour commenter toutes sortes de dossiers cette année, à commencer par une élection au fédéral.
Oui, tout à fait. Alors, il y aura l'élection fédérale au mois de novembre, octobre-novembre, là, oui. D'ici la, vers la fin de l'année 2019. Alors, on voit d'abord, vous avez vu, là, M. Trudeau, qui a nommé un ministre de plus à Montréal.
Un pur inconnu. On ne savait même pas qu'il était ministre, qu'il était député.
On dit que c'est quelqu'un de très qualifié, là. Je pense que oui, tout à fait.
Pourquoi il n'était pas là avant s'il était qualifié?
Bien, tout à fait, c'est une bonne question. Mais je pense que là, il y a un calcul politique qui est fait dans le geste de M. Trudeau de placer un quatrième ministre de plus. Québec. Ouais. Je pense qu'il y a un calcul politique. Il va avoir besoin du Québec, M. Trudeau, prochaine élection.
Ça peut-tu avoir un effet? Moi, en tout cas, ça te passe sans pied par-dessus la tête.
À Montréal, les gens sont peut-être un petit peu plus... ça fait quand même plusieurs ministres qui sont concentrés dans la métropole. Je te dirais pas que ça fait la différence, Robert, mais c'est dans les calculs politiques qu'un premier ministre peut faire, qu'il doit faire, parce que s'il avait fait l'inverse... Là, ça aurait nuit.
Il n'y a comme pas le choix de miser sur le Québec,
c'est
Justin Trudeau, parce que Grosjean comme devant, il risque de perdre sa majorité. Peut-être qu'il va demeurer le premier ministre, mais peut-être qu'il n'aura pas sa majorité si le Québec ne le suit pas.
Ben moi, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Le Québec, je pense que le Québec va probablement continuer à le suivre, mais dans une mesure moins importante. Par contre, ça va être difficile pour lui dans l'Ouest canadien, ça va être difficile pour lui en Ontario, notamment avec le gouvernement Ford, là. Alors, je pense qu'ils ne sont pas trop sur la même longueur d'onde. Et toute l'histoire, le dossier du pétrole dans l'Ouest versus le Québec. Je l'ai dit aussi, l'affaire des déficits. Moi, je ne comprends pas. L'économie va bien au Canada, au Québec, partout. Et on crée des déficits très importants année après année. Et ça, c'est une carte de crédit qu'on est en train de charger au maximum là, pour nos générations futures. Alors, qu'est-ce que si une stagnation de l'économie ou si une récession qui se pointe à l'horizon, on va faire quoi? Parce que normalement, on fait des déficits quand il y a une récession économique. On veut stimuler l'économie. On veut investir massivement dans les infrastructures pour créer des emplois. Et là, lui, il a fait beaucoup de déficits. Puis on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de projets d'infrastructures structurants qui ont été mis en place.
Le score est fort. Il a marqué des points au sein des familles qui ont reçu des chèques par le retour du courrier. Ça, politiquement, c'est payant en maudit. T'envoies un chèque à quelqu'un, c'est quasiment signé Justin Trudeau dessus, là. Puis tu vas encaisser ça. C'est le fun en tabarnouche. Tu te fais aimer. Non, mais dans la famille moyenne, là, Justin Trudeau, là, il a scoré pas à peu près depuis 2 ans.
Bien, tout à fait. C'est sûr que la famille moyenne, c'est la cible de tous les gouvernements, de tous les premiers ministres. On veut toujours trouver qu'est-ce qui va faciliter la vie, qu'est-ce qui va améliorer la vie de ces familles-là, leur donner une marge de manœuvre budgétaire un peu plus grande. Maintenant, on ne peut pas, dans un premier temps, dire on leur retourne un chèque. Mais après ça, il faut faire l'analyse globale des actions gouvernementales. Est-ce que les taxes se sont multipliées? Est-ce que les taxes ont augmenté? Qu'est-ce qui reste de plus dans le portefeuille de ces familles-là? C'est toujours la question dont on doit se poser. Alors, il y aura à répondre à certaines questions, c'est clair là-dessus.
C'est pas, puis j'ai l'impression aussi que l'idée de légaliser le cannabis, ça va le rattraper. Endémique, là, pas endémique, mais en tout cas, c'est une espèce de, je pourrais dire, contestation silencieuse qui est en train de s'organiser. Moi, je pense qu'on en entend pas beaucoup parler, mais ça va se manifester le jour du scrutin, ça. Du monde qui vont y reprocher en y disant « c'est pas correct ce que tu as fait là ».
Là, c'est fait. Puis on n'en parle plus beaucoup. Tu as raison, Robert, on n'en entend plus beaucoup parler parce qu'on a comme avalé la pilule. on s'est tous dit, ben, regarde, il a décidé, il a fait une promesse électorale, il est allé de l'avant avec sa promesse, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de grogne dans les débuts. Je pense que les gens n'étaient pas d'accord. Les gens ne sont pas plus d'accord aujourd'hui, selon moi, mais ils vivent avec, tout simplement. Et en plus, ben, ça a été un dossier qui a été précipité, mal préparé. Il y a un manque d'approvisionnement.
C'est un échec.
Toute la ligne. En fait, c'est un rêve, là, une idée, puis il l'a lancé, mais après ça, entre le lancer puis la mettre en application, puis d'essayer de faire comprendre aux Québécois le bien fondé de ça, parce que le seul argument qu'il a, c'est que ça va diminuer le marché noir.
Ça a l'effet contraire.
C'est tout à fait.
C'est comme s'il avait fait de la promotion, espèce d'un beau plan marketing mis sur pied pour promouvoir la consommation du cannabis. Et si vous ne pouvez pas en avoir à la SQDC, vous invite à descendre dans la rue.
Tout à fait.
Eux autres, ils savent comment ça fonctionne.
D'autant plus que l'approvisionnement n'est pas au rendez-vous dans la SQDC. Donc, les gens qui en veulent, il faut qu'ils se tournent vers le marché noir. Alors, pas sûr qu'on a réglé cette question-là.
Deux sujets, Julie. D'abord, le registre des armes à feu. Moi, à chaque fois que j'entends parler d'un registre géré par un gouvernement...
Ça te donne la chair de poule.
Oui, j'ai comme un gros problème avec ça. Écoute, le registre des armes à feu, le premier à l'époque du gouvernement fédéral, a été un grand fiasco à coût de centaines de millions. C'est pas des milliards de dollars, je pense, que ça a coûté. Et alors qu'à l'époque, on disait, bon, ça va nous coûter à peu près, je sais pas, 25 millions, c'était des pinottes. Et il y en a qui ont flairé la bonne affaire, qui en ont profité. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec pas de registre d'armes à feu au fédéral, les conservateurs l'ont aboli. Nous autres, au Québec, on est bien meilleurs, nous autres, on a récupéré la balle au bon et on dit, on va en faire un, nous autres, un registre des armes à feu au Québec. Et le dernier constat, c'est que la grande majorité de ceux qui ont des fusils ou des armes au Québec ne les ont pas encore enregistrés. Et la date butoir, es-tu arrivée?
C'est fin janvier.
Oui. Donc, ça marche. C'est-tu un constat d'échec?
Ben, je croirais que oui. Là, on dit à peu près 20 % des gens ont enregistré leur arme à ce jour. Puis la date butoir est dans 2 semaines, 3 semaines maximum. Alors, au meilleur, on va peut-être atteindre 24-25 %. Alors, il y a vraiment un constat d'échec. Et c'est vraiment une patate chaude pour le gouvernement. Moi, je me rappelle, Robert, quand il y a eu ces discussions-là autour du caucus, quand j'étais au gouvernement, et c'était très partagé, hein? Tous les députés qui venaient des régions étaient contre la mise en place de ce registre-là. On peut comprendre, là, en région, il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de gens qui c'est là un loisir pour eux, une passion même. Alors, il y avait, tous les députés en région étaient contre, mais il y avait un lobby qui était particulièrement fort, il faut le comprendre, là. On se rappellera des accidents tragiques de la Polytechnique. Alors, il y avait un lobby...
À Dawson.
Alors, il y avait un lobby particulièrement fort qui disait, ben, il faut contrôler, il faut savoir qui a des armes. Maintenant, la question, c'est de savoir... Quand on sait qu'il y a des armes, est-ce que ça empêche qu'il y ait ce genre d'événement-là tragique qui se produise?
Il y a un auditeur qui a téléphoné à la commission Mayou ce matin, pilote Mayou, là, puis la commission PM, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a téléphoné, puis il disait, les crimes dont vous avez parlé, ben, ont été perpétrés avec des gens qui avaient des armes enregistrées.
Oui, c'est ça que je dis, ça n'empêche pas personne.
Voilà. Donc, mais ils vont aller où avec ça?
Je sais pas.
Ils veulent faire quoi?
Puis de toute façon, amendes, il y a des amendes qui sont prévues dans la loi.
Vous le savez.
Est-ce qu'ils vont rentrer dans les maisons des gens pour savoir est-ce que telle personne a des armes?
C'est ingérable.
C'est ingérable. On parle d'amendes entre 500 $ puis 5000 $ Mais comment on va faire? Puis après la date butoir, Robert, il n'y a pas personne qui va aller s'enregistrer une semaine ou deux semaines après, parce que s'il est déjà en retard, il est déjà vu comme quelqu'un qui a été délinquant, qui n'a pas respecté la loi. Alors, je me dis, comment ils vont gérer ça après qu'on se soit rendu compte que c'est un échec et ça a coûté près de 20 millions de $ aux contribuables du Québec, là.
Oui, et c'est pas terminé.
Non, tout à fait.
Le meilleur est à venir. Peux-tu parler d'Abbaye un peu?
Oui.
Abbaye, la semaine dernière, rassemblement devant les bureaux de Donald Martel. Ça fait un an, il y a un lock-out, on le dit. Puis on regarde ça, on a beau sous-peser, là, d'un côté comme de l'autre. Ce qu'il y a dans la balance, on n'a pas l'impression qu'un a plus raison que l'autre. Puis on peut pas dire non plus ben savant celui qui est capable de nous dire comment est-ce que tout ça va trouver une fin raisonnable pour qu'on rentre au travail, qu'on continue à la production à l'abbaye à 100%. Petit commentaire là-dessus.
Mais écoutez, c'est un dossier qui n'est pas facile, qui n'est pas facile pour personne. On parle de plus de 1000 familles, des retombées économiques pour la région de 500 millions de dollars. Et là, ce qu'on se rend compte à la longue, là, avec l'usure du temps, c'est que les partis sont vraiment polarisés. On dit de part et d'autre qu'il y a une volonté de régler, qu'ils sont de bonne foi, qu'ils veulent... Ils le disent, mais concrètement, on ne le sent pas et on ne le voit pas, cette volonté-là de s'asseoir, de négocier, puis de trouver une piste d'atterrissage ou un terrain d'entente. Alors, à partir du moment où on ne voit pas cette volonté-là, ça devient inquiétant. Il n'y a pas de doute que ça devient inquiétant. Alors...
Même la semaine dernière, là, le porte-parole de l'industrie canadienne de l'aluminium, là, il disait lui-même, je suis inquiet.
C'est ça, tout à fait.
Inquiet, puis il va falloir l'évoquer à un moment donné, possibilité... que cette usine-là ferme pour de bon. Là, elle est fermée quasiment aux trois quarts. Là. Il n'en reste plus beaucoup. Il y a une demi-série de cuves qui est encore en opération. Puis après ça, l'usine est considérée comme fermée. Est-ce que c'est... une possibilité, selon
vous? Il y a des questions qu'on doit se poser, Robert. Le prix de l'aluminium sur le marché mondial est plutôt bas.
Oui.
On parle de 1880 $ la tonne. Alors, c'est plutôt bas, donc c'est pas pour les propriétaires. Là, c'est pas intéressant de produire ou de surproduire quand le prix sur le marché n'est pas là, si l'aluminium ne s'achète pas. Il y a l'autre chose également qui nous nuit, c'est qu'on a les taxes américaines, là. Alors, Rio Tinto et Alcoa, qui sont les propriétaires d'ABI à 75-25, Rio Tinto 25 puis Alcoa à 75%, ont des usines partout sur la planète, partout dans le monde. Alors, est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils préfèrent produire ailleurs parce qu'ils n'ont pas ce genre de contraintes-là quand ils tentent d'exporter leurs produits aux États-Unis? Est-ce que c'est plus avantageux pour eux de produire ailleurs parce que les intrants sont moins dispendieux? Bon, nous ici, l'avantage qu'on a, c'est les coûts d'électricité. On dit, ben, on leur donne des coûts préférentiels en matière d'électricité, et c'est tout à fait vrai. Cela dit, il y a un contrat qui était entendu avec Alcoa et Rio Tinto. Et cette entente-là sur les taux préférentiels, elle va jusqu'en 2029, Robert. Elle a été signée en 2015 et l'entente se poursuit jusqu'en 2029. Alors, de dire qu'il faudrait leur enlever ça, c'est plus compliqué de le dire que de le faire. Parce qu'il y a un contrat, il y a une entente, c'est négocié entre les deux parties. Et ce genre de contrat-là, ça ne s'ouvre pas parce que ça nous tente de l'ouvrir. Mais... il y a un message qui est important à retenir, c'est qu'à l'avenir, quand les gouvernements signeront ce genre d'entente-là, il faudra prévoir que quand il arrive des événements comme ceux qui sont là présentement ici à Bécancour, il faudra prévoir peut-être que ben, le tarif d'électricité, là, est-ce qu'il sera toujours appliqué quand il y aura un manque de bonne volonté de négociation de la part des deux parties?
Mais comment le gouvernement peut, parce que là, on a l'impression que le gouvernement peut intervenir, c'est ce que demande le syndicat actuellement. Comment, dans un dossier comme ça, le gouvernement peut intervenir? Voyez-vous, avec l'expérience que vous avez, là, y a-tu une petite brèche
à
quelque part?
La marge de manœuvre est très mince, Robert. On a mis en place un comité actuellement au ministère du Travail, un comité où il y a des gens qui vont être facilitants, qui vont essayer de rencontrer les deux parties et de trouver des avenues. Donc, un comité qui est facilitant, mais en termes d'obligation, là, est-ce qu'on peut aller en arbitrage? Est-ce qu'on peut déposer une loi spéciale? Toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut réduire ou leur enlever les taux préférentiels d'électricité? Ça, là, il y a une marge de manœuvre extrêmement mince pour le gouvernement parce qu'on parle ici d'une entreprise privée, d'une multinationale qui, à tout moment, peut dire ben, bye, bye les Québécois, moi je m'en vais, c'est trop contraignant d'opérer au Québec.
Sans prendre position, est-ce que le syndicat aura peut-être l'odieux de revenir... Tu sais, ben, parce que pour le syndicat, revenir en arrière pilé sur son âme, sur ses, comment je pourrais dire, ses valeurs hein, de syndicaliste, revenait en arrière en disant, ben, quasiment en jouant, en disant, bon, écoute, on a perdu la partie, on est prêt à rentrer aux conditions que vous nous ferez. Ils peuvent-tu aller jusque-là à la fin pour sauver l'entreprise ou ce qui va en rester lorsque ce sera le temps de relancer les activités?
Ben moi, je pense que le syndicat doit faire un examen de conscience, assurément. Puis Robert, de reculer ou de plier comme un roseau, je dis des fois, il faut plier comme un roseau quand on veut que les choses fonctionnent. Il faut mettre un peu d'eau dans notre vin. Mais ça, c'est de part et d'autre. C'est pas juste pour le syndicat. Alors, de part et d'autre, est-ce qu'on doit faire un pas derrière pour mieux avancer? Moi, je pense que c'est souhaitable. Il n'y a pas de gêne à faire ça. Faire ça parce que là, c'est 1000 travailleurs, 1000 familles. Ouais, mais il ne faut pas que ça se fasse de façon unilatérale. Je ne crois pas. Je pense que de part et d'autre, il devrait y avoir des concessions. C'est ça la base d'une négociation. Alors, je pense que de part et d'autre...
À moins qu'il y ait des agendas cachés. Je le disais la semaine dernière. À moins que, comme on le dit, comme ça ne représente que 3% de la production mondiale de l'entreprise, peut-être qu'ils ont un plan de match qui est secret puis ils ne veulent pas nous le dire. Puis que dans le fond... ce qu'ils veulent faire à la fin, c'est de déplacer la production vers d'autres usines qui appartiennent à la compagnie quelque part dans le monde.
Mais c'est pas impossible ce que tu dis, Robert. Mais j'espère que c'est pas ça. J'espère, je le souhaite. Et je te dirais que quand ces compagnies-là ont été rencontrées, là, moi, dans les dernières années où j'étais au gouvernement, il y avait des plans de modernisation, d'amélioration. Et il y avait un plan de match pour cette usine-là, Bécancour. Donc, c'était... pour la compagnie, une usine qui était performante, qui produisait bien un aluminium de bonne qualité avec des travailleurs qui étaient au rendez-vous. Alors, il y avait vraiment un plan d'investissement pour l'usine de Bécancour. Alors, est-ce qu'au cours des derniers mois, suite à ce conflit qui s'éternise, est-ce que l'entreprise, les promoteurs ont d'autres visions, d'autres visées? J'espère bien que non. J'espère qu'ils ont toujours dans l'idée d'investir chez nous, de croire en leur potentiel, au potentiel de nos travailleurs. Je le souhaite profondément parce que écoutez, on a vécu la fermeture de Gentilly. Il ne faudrait pas vivre encore une autre fermeture de cette ampleur-là.
Non. Bon, il y a une course à la mairie de Trois-Rivières qui a été lancée. La course! Non, ben, demain, le conseil de ville va se réunir. Là, puis là, ils vont mettre en place tous les mécanismes pour nous amener une belle élection. Ça va être le fun dans 4 mois à peu près. Bon, là, ma question à Julie Boulay est claire et précise. Puis, non, mais tout le monde attend après vous, Mme Boulay. Y allez-vous ou vous n'allez pas à la mairie de Trois-Rivières?
Robert, écoute, je réfléchis puis j'y pense beaucoup, mais sincèrement, j'ai fait 17 années là, d'engagement politique là, au quotidien. C'est beaucoup de travail et je regarde ça puis j'ai pas encore pris ma décision finale, Robert.
La dernière fois, on était à 95, là,
c'est ça,
là? Non, mais là, on est à 98. On peut-tu... de chronique
mais
en chronique.
Je vais vous le dire, tu vas être le premier à savoir quand j'aurai pris ma décision.
OK, bon. Parfait. Ben, parce qu'il y en a d'autres qui attendent, là. Et si la Boulay y va, moi, je ne vais pas. Moi, je suis ben trop connu, tu sais, voyons donc. Puis son frère, en plus, il est là. Voyons, moi, si la Boulay y va, moi, je ne vais pas là. Je ne veux rien savoir de ça. Fait que là, ils attendent, là. Ils vont tous s'annoncer, là, le jour où vous allez nous le dire. Marc-André est en studio avec ses beaux grands yeux à nous regarder comme ça. Allô, Marc-André?
Ben oui, ben je prends des notes pour les nouvelles de l'après-midi, soit dit en passant. Mais sinon, excusez-moi, je vais faire une parenthèse rapide dans la chronique parce que c'est une situation qu'on suit avec beaucoup d'intérêt en ce moment. À l'école, les découvreurs de la salle, il y a une vingtaine d'élèves qui ont été pris en charge par Urgence Santé. Ils ont subi un malaise tous en même temps. Alors, c'est quand même une situation assez particulière. Donc, selon les premières informations, il s'agirait d'une possible intoxication au monoxyde de carbone. Et là, les enfants, puis vous m'excuserez, on est dans l'heure de dîner, là, mais les enfants se mettaient à vomir partout, étaient étourdis, tout ça. On ne parlerait pas vraiment nécessairement d'évanouissement ou quoi, là,
ça,
mais
c'est dans la région
malaise.
De Montréal.
Absolument, absolument. Okay. C'est la situation qu'on suit pour le moment. Le bâtiment a été évacué. On ne connaît pas encore la source de l'intoxication, mais quand même, une vingtaine d'enfants qui ont été pris en charge et le bâtiment a été évacué. évacués et tous les services là, d'intervention sont sur place présentement.
Ben, merci beaucoup, Marc-André.
Fin de la parenthèse.
On a hâte d'avoir les prochaines nouvelles. J'espère que c'est pas trop grave. C'est ça l'actualité. Madame Boulay?
Oui?
Alors, merci beaucoup d'avoir pris
ça
le temps.
Ça me fait plaisir,
Robert. Il y a plein d'autres nouvelles que vous auriez pu commenter également. Pas drôle. Vous êtes une femme, vous-même, femme
oui.
d'affaires, puis vous en avez vu d'autres. Caroline Néron, oui. là, cette histoire-là, parce qu'il y a les pour et les contre, hein? Puis elle a passé un drôle de mauvais quart d'heure en fin de semaine, je vais vous dire, sur les réseaux sociaux. Votre opinion?
Ben, je trouve que les gens jugent rapidement, Robert. C'est pas parce que c'est une femme, puis qu'elle n'a pas la... Écoutez, ça, d'avoir un échec en affaires, ça arrive à tout le monde.
Oui.
Ça arrive à tout le monde. Là où on peut se poser des questions, puis je suis tout à fait d'accord avec le commentaire que tu passais précédemment,
tantôt, oui, oui.
Par rapport au... Quand tu es allée au Dragon, on sait qu'elle a soutenu financièrement, en tout cas, elle s'était engagée à soutenir financièrement des entreprises, puis en bout de ligne, ils n'ont pas vu l'argent, ils n'ont pas vu concrètement, ça ne s'est pas concrétisé. Maintenant, j'imagine qu'elle, elle est là pour faire la... C'est pas nécessairement une gestionnaire, elle l'a dit, je suis pas une gestionnaire. Par contre, je suis une bonne vendeuse, je suis capable de faire la promotion, de savoir quel produit va marcher. Alors, peut-être qu'elle allait faire profiter les gens de d'autres talents qu'elle a, mais non pas celui de gestionnaire. Mais il y avait un risque d'aller à cette émission-là dans la condition où son entreprise était. Je me questionne, moi, c'est à savoir comment se fait qu'on l'a choisi, elle, si on savait à cette époque-là que son entreprise était pas loin de la faillite, là. Je ne sais pas pourquoi on a fait affaire, on l'a choisi. Pourquoi? J'imagine peut-être parce que c'est une image qui est inspirante pour les jeunes, pour les femmes, parce qu'en affaires, pour devenir entrepreneur, il faut avoir du courage, il faut avoir de la vision, de l'audace. Et ça, je pense qu'elle le dégage. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut savoir compter aussi.
Merci beaucoup. Vous pouvez toujours compter sur moi, Mme Boulay. On se retrouve jeudi à 12h33, une courte pause. Et au retour, Découverte. Avez-vous vu l'émission Découverte hier?
Non.
Moi, je l'ai vu, OK? Puis je l'ai est enregistré, je vais finir de... C'était un beau gros quart d'heure. À l'Université du Québec, à Trois-Rivières, on reçoit le corps de personnes qui ont décidé de donner leur corps
oui,
à la science.
Ça, je savais ça.
Et il y a des cérémonies que l'on fait, puis on invite les familles à venir, puis on souligne l'apport de ces gens-là pour l'avancement de la science. Ils font une petite cérémonie religieuse et tout ça avec ce monde-là. Puis après ça, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient avec les corps. C'était pas évident. Les détails après la pause.